Bien, nous allons commencer, dit Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue à la téléconférence d'ALAC, mensuelle d'ALAC, mardi 22 janvier 2013. Il est 15h01 UTC. Et donc la première chose que nous allons faire, le premier point de notre ordre du jour, c'est l'appel. Donc, nous allons faire l'appel. Bonjour à tous, Diego. Aujourd'hui, nous avons Olivier Crépin-Leblanc, Devanand Selixin, Yaovi Atoun, Carlton Samuel, Tijani Benjema, Titi Akinsami, Evan Leibovich, Alan Greenberg, Eduardo Diaz et Rinalia Abdulrahim, qui arrivera un petit peu en retard. Nous avons aussi Julie Hammer, Sherin Langdonor, Maureen Elias, Oksana Priotko, Ron Sherwood, Winthrop Hugh, Ioli Sampuro et Sipa Muchami. Et sur le canal espagnol, nous avons Nathalie Enciso. Il n'y a personne sur le canal français. Et Jean-Jacques Soubrona présente ses excuses. Holly Wage, Sandra Rouge de Richter, Hanol Trick, Fatima Asila. Et nous avons, au niveau des équipes de ICANN, nous avons Gisela, Heidi et Matt, Silvia et Matt. Pour la traduction de l'espagnol, nous avons Sabrina et Veronica et pour le français, nous avons Camille et Claire. Nous vous demandons de donner votre nom avant de prendre la parole pour permettre aux interprètes de vous identifier. Et nous vous demandons de parler à un rythme raisonnable pour permettre aux interprètes de faire leur travail correctement. Et cela si vous téléphonez ou si vous êtes sur la salle Adobe. N'oubliez pas d'éteindre vos micros. Merci. Merci beaucoup, Gisèle. Nous avons quelques personnes qui sont arrivées. Je vois que Fatima Cambronero était sur le canal espagnol. Sébastien Bachelet est en ligne aussi. Et je crois qu'il y a quelques autres personnes qui sont arrivées. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes, s'il vous plaît? Demande Olivier. Et c'est Heidi, Olivier. Je prends note du nom de toutes ces personnes. Gisela est partie ou elle n'est pas capable de prendre la parole? Bien, peu importe. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle année de travail que nous allons réaliser. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés et que vous êtes plein d'énergie pour reprendre notre travail et participer davantage. Et nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, beaucoup de choses en cours de route. Et nous avons besoin de beaucoup de volontaires. La première chose que nous allons faire, c'est l'adoption de notre ordre du jour. Et nous allons voir s'il y a d'autres divers à ajouter ou des amendements. Nous avons pour cela 23 minutes. Je pense que ça va prendre moins de temps que cela. Bien, je vois que personne ne veut ajouter quelque chose au divers. Donc, nous allons continuer, nous avancer. Nous avançons, donc nous avons gagné du temps sur ces 23 minutes et nous passons à la révision des actions en cours du 20 décembre pour la réunion d'ALAC 2012, du 20 décembre. Donc, vous avez remarqué que nous avons des objectifs à long terme, des actions à suivre qui ont été fermées, d'autres. Et je vais rapidement les lire, hein, comme ça vous êtes au courant. La première, c'est le ce qui concerne notre... Et Jean-Jacques Soubrena a ajouté quelques lignes avec... C'est une discussion concernant ces problèmes et les problématiques que beaucoup de membres ont eu pour aller à Toronto. Il y a eu des commentaires là-dessus, sur ces problèmes, mais rien n'a été fait officiellement, rien n'a été dit officiellement. Donc, j'espère que le PPC avancera et que nous atteindrons notre objectif dans ce domaine. Le point suivant était pour contacter John Curran sur différentes déclarations qui sont nécessaires, pour voir si c'était nécessaire. Je n'ai pas reçu de réponse, donc je pense que il n'y a pas eu donc de déclarations préliminaires qui ont été faites. Ensuite, le point à suivre suivant concernait la conférence mondiale sur l'information et la communication qui a eu lieu. Et nous en parlerons rapidement au cours de cet appel. Et finalement, Sylvia Vivanco va travailler avec le secrétariat pour envoyer les informations sur les candidatures de nouveaux GTLD et les nouvelles directives concernant les inscriptions. Donc, nous allons voir maintenant les nouvelles actions à suivre. La première concerne un document à faire sur le WCIT, je suis en train de le réaliser, j'en ai encore pour une semaine, je n'ai pas encore fini. Et ensuite, Evan Libovitch et Jean-Jacques Souprena, qui sont à la tête du groupe de travail et de challenge de FC, et doivent aussi faire un travail de comparaison concernant les résultats et attendus du WCIT. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires sur ces points? Je voudrais ajouter qu'il y a déjà eu un appel d'Excom qui a eu lieu il y a quelque temps, et c'était la semaine dernière, et il y a un point à suivre qui a été ajouté, qui était de prolonger le travail qui aura lieu au sein d'AtLarge, non seulement pour qu'il travaille avec le groupe de travail sur les défis à venir, mais parce qu'il y a différentes voies que nous allons devoir suivre, de la compétence et le développement de compétences, la sensibilisation, et tout ce qui concerne les modèles multiparties prenantes. Et donc, nous avons beaucoup de choses, de problèmes à aborder. Il y a maintenant, je pense que nous pouvons, s'il n'y a pas d'autres commentaires à ajouter, nous pouvons passer à la révision de la candidature actuelle d'AtLarge. Matt, vous avez la parole. Matt Astiani, on ne vous entend pas. Olivier, c'est Heidi. Je vais prendre la parole à la place de Matt. Allez-y. Tout le monde s'est ému aujourd'hui, dit Olivier. C'est vraiment un bon travail du bas vers le haut. Je me demande où est tout le monde, dit Heidi. Bien, on y va. Donc, les ALS accrédités récemment, nous avons l'Association des Escribanos de l'Uruguay. Et je ne sais pas pourquoi il y a écrit Euralo, mais c'est plutôt Lacralo, c'est une erreur. Ensuite, il y a les Internet Society Philippine Chapter de APRALO et ensuite .HIV Euralo. Et de nouveau, je voudrais vous dire que dans les trois cas de ces ALS, Nous avons plus de 150 ALS, 150 ici qui sont des organisations qui ont déjà signé pour Afralo. Dans le cas d'Afralo, on va suggérer pour le partenariat, on va revenir à certaines questions. Il y a une série de questions au niveau de Narloa concernant leur gouvernance, le nombre de membres, etc. Donc, il va falloir analyser. Et on attend donc l'avis régional de Apralo. Et on a, en ce qui concerne Euralo, ALAC va bientôt regarder cette présentation d'ALS. Et il y a ici différentes candidatures et des problèmes concernant le processus de due diligence qui ont été présentés. Il y a quelques soucis là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Heidi. Je remarque qu'il y a une série de noms dans la liste de participants sur la liste d'Adobe. Je vois qu'il y a des personnes qui appartiennent au chapitre de l'Internet de Philippines. Bien. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de recevoir des nouveaux membres, donc, sur notre appel de ALAC, ISOC Philippines. J'espère, Winthrop Hugh, j'espère que vous avez le temps aujourd'hui de participer à notre réunion. Cet appel, donc, est ouvert à tout le monde. Donc, si vous avez des questions à poser, et n'hésitez pas à lever la main sur la page d'Adobe et pour prendre la parole et participer aux discussions. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, nous sommes heureux de pouvoir participer à cette réunion d'aide large de ICANN et nous allons essayer de participer. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de participer. Bien, merci beaucoup à vous. Yaovi, vous avez levé la main. Yaovi, vous voulez prendre la parole? Yaovi, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Je peux prendre la parole, donc je peux parler? Oui, allez-y. Yaovi, c'est moi. Donc, je voudrais faire quelques commentaires. D'abord, je voudrais vous rappeler, et en ce qui concerne les structures à large, je voudrais peut-être qu'on devrait réfléchir aux critères et sur la structure d'at large, les critères appliqués. Si nous avons si nous voulons être membres et participer à la structure at large, des fois ça peut être difficile parce qu'il faudra que cette structure soit constituée par des utilisateurs. Et si je prends le cas d'une université, par exemple, les utilisateurs, ce sont des utilisateurs, les étudiants, mais si nous avons des associations d'étudiants, c'est différent. Mais si nous avons une université qui voudrait être membre de la structure at large, je pense qu'on devrait réfléchir là-dessus. Je me trompe peut-être, mais des fois je me demande qui c'est qu'on doit recevoir au niveau des structures à large. Donc, c'est un commentaire que je voulais vous faire concernant les organisations qui peuvent être des membres de la structure à large. Est-ce que... je ne sais pas si j'ai raison ou si je me trompe, mais je ne comprends pas bien comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Yaovi, dit Olivier. Je vois que Tijani veut prendre la parole. Tijani, vous avez la parole. Oui, merci, Olivier. Je pense que une candidature pour les ALS est acceptable si elle n'est pas, s'il ne s'agit pas d'une organisation commerciale. Finalement, on est tous des utilisateurs finaux. Un étudiant est un utilisateur final, un professeur aussi. Donc, une université, une association d'étudiants l'est aussi. Ce sont tous des utilisateurs. Et donc, ils peuvent être aussi des ALS. Mais si c'est des organisations à but lucratif, nous ne pouvons pas les accepter. Nous devons réfléchir à l'intérêt public et nous défendons cet intérêt public. Par conséquent, tout utilisateur final sans intérêt commercial, sans intérêt financier, peut devenir une ALS. Merci. Merci beaucoup, Tijani, dit Olivier. Ici, on parle des ALS qui... Et on n'a pas dit que ces organisations ne devaient pas être commerciales. Ça, c'est très important. C'est un point important. Je sais qu'il y a certaines candidatures qui n'ont pas été acceptées parce qu'elles étaient trop commerciales et elles avaient une nature commerciale. Mais vous avez tout à fait raison. Les universités, les étudiants, les associations d'étudiants, tout ça, ça peut être... Et ils sont éligibles pour devenir des ALS. Je vois que Carlton veut prendre la parole. Carlton, allez-y. Merci, Olivier. C'est Carlton Samuel. Je voulais ajouter sur ce que disait Tijani qu'il y a toujours une préoccupation pour les associations, pour les groupes qui sont fondés par le gouvernement. Parce que finalement, et c'était une raison d'opposition pour cela, hein. Et il y a eu des délibérations au sein d'ALAC sur ce point-là, sur le fait que les associations d'étudiants du monde entier, la plupart du temps, avaient un soutien, recevaient un soutien public. Et donc on ne peut pas utiliser, on ne pouvait pas accepter qu'il soit financé par le gouvernement et cela pouvait empêcher et le fait empêcher leur possibilité de se présenter comme ALS. Et Alan Greenberg, vous avez la parole. Oui, merci. Alan Greenberg, je pense que nous devons souligner ce que sont les règles parce que sur le site Internet, c'est presque toujours impossible de le trouver. Nous avons eu de longues discussions concernant ces règlements lorsqu'ils ont été établis. On a eu des délibérations. Est-ce qu'on va accepter ou ne pas accepter certaines choses? Et dans beaucoup de pays du monde, en Amérique du Nord par exemple, ce serait tout à fait ridicule, hein, certaines choses seraient tout à fait ridicules et ces choses-là ailleurs dans le monde sont des normes. Donc certaines choses sont acceptées et tant que l'organisation est contrôlée par des utilisateurs de la région, c'est accepté. Ça peut être quelque chose d'étrange, mais c'est comme ça. Parce que c'est le principal, c'est le point central. On ne peut pas différencier cela, sinon chaque région, et surtout dans des petits pays où les choses sont très, très mélangées, on ne peut pas dire comment est dirigée une organisation. Tant que ce sont des utilisateurs finaux, ça suffit, c'est bon. Merci beaucoup Alain. Tijani, vous avez la parole. Oui, merci Olivier. Oui, Alain, je comprends ce que vous dites, vous avez raison, mais une organisation ou une association peut être financée, pas complètement, mais peut être aidée par le gouvernement. On peut recevoir un soutien économique du gouvernement. Et s'il s'agit d'une association d'utilisateurs finaux, elle est acceptable. On peut l'accepter comme à l'aise. Mais pour les cas où le gouvernement les finance complètement et donc les contrôle, je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il y a un intérêt public ici et pour at large et qu'on puisse les accepter comme ALS. Merci beaucoup, Tijani. Je pense qu'on se comprend un peu mieux. Dit Olivier. Je voudrais faire un commentaire là-dessus, dit Alain Greenberg. Alain, allez-y. De nouveau, je pense qu'il nous faut juger cela en fonction du cas particulier. Je connais beaucoup d'organisations qui subsistent grâce aux financement du gouvernement, grâce à l'aide du gouvernement. C'est de là que viennent leurs fonds, mais ils ne sont pas contrôlés par le gouvernement. Donc il nous faut voir vraiment comment fonctionne une organisation. On ne peut pas faire une déclaration globale pour ce type de situation. Merci Alain. Je pense que Tijani parle de contrôle du gouvernement, et ce qui est différent d'un contrôle par les utilisateurs finaux. Oui, mais je pense que ce n'est pas la même chose que le financement. Le financement et le contrôle sont deux choses différentes. Oui, vous avez raison. Bien, je crois que nous pouvons maintenant passer au point suivant.
On se comprenait assez bien jusqu'à maintenant. Il y avait beaucoup de râleaux. Je ne veux pas dire qu'il y avait rejeté des candidatures, mais il répondait aux utilisateurs et aux candidatures qui n'étaient pas contrôlées par les utilisateurs finaux, avec une réponse négative, soi-disant. Donc, en tout cas, on va passer à la partie suivante de la réunion, et c'est le point numéro 5 sur notre ordre du jour, c'est les rapports. On n'a que 5 minutes pour ce point. Je pense qu'on pourrait peut-être dépasser ce créneau, mais on va entendre notre liaison pour la GNSO, la CCNSO et SFAC. Donc je voudrais commencer avec la GNSO. Merci, dit Alan Greenberg. Au fait, il n'y a pas énormément à rapporter. Il y a eu deux réunions sur le site Wiki des liaisons, parce qu'il y a eu une réunion hier pour essayer de sélectionner les ATRC, soit qu'on veut les soutenir ou pas, et ils n'avaient pas pu le faire jusqu'à cette réunion. Donc vous avez les détails là-dessus sur le wiki et rien d'autre qui mérite d'être rapporté. Bien, merci Alan. Si quelque chose d'autre te vient à l'esprit, ce serait intéressant d'apprendre davantage sur ces discussions. Bon, oui, mais bon, à présent, je n'ai rien d'autre à dire, dit Alan. Merci, dit Olivier. Maintenant, je voudrais qu'on ait notre rapport sur la CCNSO avec Cheryl Langdonor. Merci, c'est Cheryl qui prend la parole. Il n'y a pas beaucoup d'activités récentes à rapporter, mais je voudrais particulièrement rapporter un point qui serait intéressant pour ALAC, qui est sur le conseil de la CCNSO, qui a récemment réuni le programme pour l'Académie ICANN. Et ce programme est maintenant fort et à venir. Donc je pense que c'est intéressant et important de le savoir. C'est tout, merci. Merci Cheryl, dit Olivier. Je vois que personne ne lève la main, donc je comprends qu'il n'y a pas de questions jusqu'à présent par rapport à ces rapports, et je vais demander à Julie Hammer si elle est prête à faire son rapport sur SAC très brièvement. Oui, merci Olivier, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends, dit Olivier, vas-y, merci. C'est Julie Hammer qui prend la parole. Je viens de publier le rapport mensuel. Il n'y a pas eu de réunion de SAC récemment. Ils avaient publié un rapport sur leurs activités de 2012, sur leurs plans et leurs activités les derniers 12 mois. Les parties prenantes. Tout cela sera inclus dans le rapport d'ICANN. Et c'est à peu près tout. Merci beaucoup, Julie, dit Olivier. Je voudrais remercier toutes nos liaisons de leur énorme travail. Et vous voyez que c'est juste la pointe de l'iceberg de tout le travail que nous faisons à ICANN. Donc c'est très bien de pouvoir apprendre en 2 secondes ce qui se passe autour de nous dans le reste de l'organisation. Vous verrez que sur l'écran d'Adobe Connect, vous avez un lien qui vous amènera sur l'agenda. C'est une page wiki. Et donc, cet agenda a un autre lien pour aller voir les sites wiki, des râleaux et des liaisons. Je voudrais que vous sachiez que les rapports ad large des liaisons devraient être parmi vos sites favoris pour que vous puissiez trouver l'information que vous cherchez. C'est l'un des sites clés pour trouver des informations que vous cherchez. Donc j'espère que vous l'aurez signalé sur votre navigateur. Et je mentionne ces favoris parce que la partie suivante de notre ordre du jour portera sur les nouveaux sujets, c'est-à-dire les points à décider. Il y a un rapport avant de l'ANC. Vous pouvez aller le vérifier directement sur les sites des liaisons et des râleaux. On a aussi d'autres groupes de travail qui publient sur leur propre wiki. Donc c'est très important d'avoir ces sites pour pouvoir suivre ce qui est à venir par rapport à Euralo, Lacralo, Aperalo, Afralo et Euralo. Je ne pense pas qu'on ait le temps de passer par toutes les râleaux, mais je voudrais remercier au secrétaire des râleaux d'avoir publié leur rapport, ce qui est très important pour que tout le reste de l'organisation sache ce qui se passe au niveau local. Heidi vient de m'écrire. Et elle voulait souvenir, elle me dit, au râleau et aux liaisons de remettre le rapport dans la date assignée. Très bien. Donc, pour que nous passions au point suivant, nous allons maintenant discuter les points à décider. Le numéro 6 est la page ou le site de développement de conseil sur les politiques. C'est un des points et l'un des sites, en fait, intéressants à garder entre vos favoris. Vous allez voir toutes les déclarations ouvertes et toutes les déclarations fermées. Tout est publié sur ce site wiki. Et je voudrais dire que vous devriez vous rendre sur ce site tous les 2-3 jours pour voir quel est le travail dont on a besoin. On pourrait repasser vraiment les déclarations d'ALAC récemment adoptées. La première est sur la chambre de compensation des marques déposées. C'est la solution Strawman. C'est la solution de l'épouvantail. Alan a travaillé sur ce point spécifiquement. Alan qui prend la parole. Je ne vais pas le discuter en détail. On l'a déjà fait à plusieurs reprises. Mais cette déclaration a été créée à partir de demandes qui ont été faites aux équipes ICANN lors de la réunion de Toronto. On a maintenu des réunions à Los Angeles auxquelles on a participé à distance et ces réunions portaient sur certains des problèmes et on a conçu cette solution de l'épouvantail, le Strawman. Il y avait des décisions par rapport auxquelles on n'était pas sûr et ALAC semblait rédiger des politiques. On n'était pas sûr par rapport à ce qui allait se passer et on avait des problèmes de décision. On avait eu des problèmes lors des réunions parce que ce serait aussi inclus sur l'ordre du jour. Si vous voyez mon rapport, cette discussion a commencé d'une manière. On disait qu'on devait travailler avec les GTLD, c'était la solution, et si cette solution ne venait pas de nous, on n'allait pas pouvoir le résoudre. Et puis on s'est dit que c'était ridicule de se dire, et on n'a rien pu décider, donc Lorsque la discussion était finie, on s'est rendu compte que cette solution de l'homme de paille n'avait rien à voir avec notre discussion ou qu'elle n'avait pas traité les sujets qu'on devait traiter. Donc je pense qu'on avance dans la bonne direction. On ne sait pas très bien comment suivre, mais il me semble que la relation entre ce genre de discussion entre les personnes à partir de ce genre de discussion est meilleure. Il y a un parallèle qui est intéressant et c'est que certains des membres du regroupement des parties prenantes commerciales indiquent que cette solution leur semblait, ils ont dit que cette solution leur semblait ridicule. Mais la discussion que les équipes d'ACAN maintiennent avec les bureaux d'enregistrement en ce moment sur les serveurs proxy cherchent à trouver la façon de les contrôler depuis ICANN. Et ils appellent leur solution l'homme de paille, le Strawman aussi, et ils essaient de l'intégrer à un PDP, un processus de développement de politique. Ces discussions ont été utilisées de très bonne façon, c'est très utile de s'en servir et la GNSO l'a mentionné lors d'une autre réunion et je voudrais simplement me centrer sur le fait que c'était développé par un groupe privé où on n'avait pas invité tout le monde et je pense que ce n'est pas bon de faire les choses, de mener des discussions à huis clos, que tout le monde devrait être inclus et qu'on devrait traiter bien sûr tous les problèmes. Merci. Merci Alan. Dit Olivier. On s'attendra à voir quelle est la réponse à ce qu'on a fourni en tant que solution Strawman. Le point suivant est la protection de IGO et de INGO. C'est les organisations gouvernementales internationales, les organisations internationales non gouvernementales et les identifiants pour ces organisations dans tous les GTLD. On a maintenu des réunions de RCA et NRC et ça a mené à une longue discussion. Donc je voudrais remercier Alan et Evan. Il y a eu beaucoup de contributions de Jovan Kvalic. On a les IGO, les INGO. Et toutes ces informations ont été considérées par les groupes de travail de la GNSO. Et je voudrais savoir si Alan ou Evan voudraient nous raconter ce qui a été discuté lors de l'appel. Oui, je fais partie de l'appel. Si Evan, cet appel a eu lieu quelques jours avant la réunion. Et apparemment, ALAC était la seule organisation à avoir fourni une déclaration avant la date de délai. Donc on a eu l'opportunité de travailler lors de l'appel et on a discuté certains des points qui étaient inclus dans la déclaration. On a même travaillé assez bien. Ils n'étaient pas d'accord avec certains des concepts qu'on avait inclus. Ils disaient qu'on ne pouvait pas être purement objectif et que si quelqu'un devrait avoir une protection, il devrait la demander à partir d'une bonne raison. Alors qu'ils ne pouvaient pas avoir ce genre de statut s'il n'y avait pas un besoin réel de l'avoir. Je travaille sur un document en ce moment que je partagerai avec vous tout à l'heure, mais vous verrez que les IGO et les INGO sont assez différentes entre elles. Il y a des organisations internationales gouvernementales qui ont enregistré le nom de leur organisation et n'ont pas de défense à l'enregistrement. Et ils ont décidé qu'ils n'ont pas de problème avec ce fait. Mais il y a des exemples qui existent sur les raisons pour lesquelles on ne devrait pas fournir la protection aux INGO. Il y a des organisations qui en ont besoin et d'autres qui n'en ont pas besoin. Mais est-ce que vous savez combien de noms de domaine appartiennent à une même adresse email? Si vous rendez sur Microsoft.com et vous voyez d'autres noms de domaine, vous verrez qu'ils sont enregistrés pour une même entité. Et c'est le cas de 250 000 noms de domaine. Et ils n'ont pas 250 000 marques déposées. Et si vous voyez d'autres noms, vous voyez qu'ils ont un domaine, deux, trois. Donc ce sont deux situations complètement différentes. Et c'est très intéressant de voir comment ça se passe. Les enregistrants donc ont créé une résolution qui a dit qu'il faut maintenir la Croix olympique internationale et la Croix-Rouge et le Comité olympique international et ne donner la protection à personne d'autre. Donc on est en train de voir quelle sera la portée de cette résolution. Merci. Merci Alan, c'est Evan Livovitch qui va prendre la parole maintenant. Merci Olivier. Je m'excuse Alan de ne pas avoir été présent lors de cette dernière réunion, mais je me demande ce qui se serait passé par rapport à un point qu'Alac a souligné. C'est le fait que les organisations telles que Oxfam, Médecins sans frontières et d'autres, en fait, méritent la protection plus que les INGO ou les IGO qui la demandent. Parce que c'est pas un concept que l'on ait manifesté ici et je voudrais savoir quelle a été la réaction. Oui, ça a été dit par d'autres personnes, au moins une personne de plus l'a dit. Et on travaille sur la charte. On parle des organisations internationales non gouvernementales protégées par des traités ou par les lois internationales. Et ce qui n'est pas clair est s'il s'agit des lois internationales ou des traités, mais le Comité olympique international et la Croix-Rouge sont protégés par les deux. Et ils ont dit qu'il n'y a probablement pas d'autres organisations au-delà de ces deux qui puissent respecter ce critère, qui le suivent. Et on voudrait savoir si on devrait respecter ce critère étroit ou si on devrait offrir une autre sorte de protection aux autres organisations. Mais on a fourni pas mal de soutien et il est clair qu'il y a potentiellement des dizaines de milliers ou de centaines de milliers d'organisations internationales de différentes sortes. Et en général, les personnes ne sont pas prêtes à ouvrir cette protection à tous et ne veulent pas avoir à décider qui mérite la protection et qui ne la mérite pas non plus. Mais l'effort du travail que cela implique et la rédaction de documents que ça implique les freine un peu. Ça a déjà été discuté du point de vue des INGO desquels on est en train de parler, s'il s'agit de deux ou trois ou si c'est un groupe plus large. Et si ça inclut ou pas les organisations qui ne se basent pas sur des traités. Les groupes cherchent à trouver une solution simple, sans compliquer les groupes, et avec un critère qui soit plus objectif. Mais on va voir ce que ça donne. Merci Evan et merci Alan. Je voudrais passer maintenant rapidement au point suivant. Je remercie d'avoir fait ce rapport, cette révision rapide. On a maintenant les démarches à l'AC pour ICANN. J'ai fourni une copie de ce document à un membre du directoire de ICANN, Sébastien Bachelet. On a reçu beaucoup de réponses. Sébastien était connecté à cet appel. Je voudrais savoir s'il a quelque chose à ajouter ou pas. C'est Sébastien Bachelet qui prend la parole. Ce document a été inclus dans notre ordre du jour pour la réunion du 31 janvier. Et on va le discuter lors de certaines réunions, particulièrement sur Beijing aussi, c'est la réunion qui portera sur Beijing. Et je le discuterai avec le président du directoire. Et certainement entre le 1er et le 2 février, on s'occupera de ce document. Bien, merci beaucoup Sébastien, dit Olivier. On a donc un point de plus à traiter dans notre ordre du jour. C'est les déclarations qui sont en train d'être rédigées, révisées ou votées par ALAC. Donc on a le programme des variantes IDN des TLD. C'est une procédure à développer et maintenir dans les règles de génération d'étiquettes pour la zone racine par rapport aux étiquettes ou les labels IDNA. On a un deuxième brouillon que je ne vais pas lire parce que les interprètes vont avoir trop de mal, je pense. ALAC est en train de voter sur ce document. Je voudrais remercier Rinalia Abdulrahim et son groupe de travail sur IDN qui ont rédigé ce document. On a eu plein de déclarations sur les IDN parce qu'il y a eu beaucoup de travail par rapport à ces variantes. Donc ça a été beaucoup de travail. On a aussi la déclaration sur les états des Wicked du WCIT. Heidi demande la parole. Je m'excuse de t'interrompre, dit Heidi. Je vois que Rinalia n'est pas présente dans cet appel et elle nous avait demandé si la communauté à large était intéressée et s'il y avait des commentaires à faire par rapport à ce document. Elle demandait de fixer la date pour un webinaire où on pourrait faire les commentaires et les contributions pour aider à large à développer cette déclaration. Merci.
Merci beaucoup Heidi et Olivier. Lorsqu'on parle d'IDN, on pense souvent aux alphabets japonais, chinois, coréens, mais en réalité, les IDN sont aussi des alphabets qui peuvent inclure des accents sur les lettres, comme le I, le A. Il y a vraiment différentes écritures qui sont considérées IDN. Tout ce qui n'est pas sous le H, les écritures A, Z est considéré un IDN. Donc, il y a aussi l'écriture, l'alphabet grec, l'alphabet cyrillique, une série d'alphabets différents qui sont considérés dans ces IDN. Donc, beaucoup de choses sont importantes ici. Bon, c'est noté. Bien, donc nous pouvons passer à la déclaration sur les résultats du WCIT. C'est moi-même qui vais le faire, le rapport sur le groupe de travail du GNSO sur les droits des consommateurs, la confiance des consommateurs, la compétition, la concurrence, la première déclaration faite là-dessus. Je vais travailler et pour faire une série d'amendements, je pense que dans les jours à venir, nous allons les présenter. Il y aura quelque chose qui sera prêt et pour être voté et pour pouvoir envoyer une déclaration. Ensuite, nous avons le groupe de travail, le PDP de Ruiz et P. L'ALAC va voter là-dessus aussi. Et je vais remercier tout le monde pour sa participation à cette rédaction. Alan a beaucoup aidé et beaucoup de contributions. Et sur tout ce qui est whois, le whois épais. Merci pour votre contribution. C'est nécessaire. Il y a eu des discussions, il y a eu un groupe de travail et beaucoup de personnes y ont participé. Donc, ça a été du bon travail. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions là-dessus? Sur ce point, je ne vois personne qui veut prendre la parole. Ah, Alain a levé la main. Alain était lent à lever la main, mais on lui donne la parole. Allez-y, Alain. Et donc, les contributions pour le groupe de travail de Ruiz Épée. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une grande bataille sur la question de la privacité. Et le NCUC, et je pense que cette déclaration a été envoyée à l'AC. Il y a le NCUC a fait une longue réponse sur la façon dont tout dépend du Ruiz Épée pour tout ce qui est la privacité. VeriSign a fait de nouveau quelque chose de similaire. Et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi le fait d'avoir un domaine et de Ruiz et les informations qui soient déplacées vers les États-Unis peut le rendre plus disponible et qu'une règle de ICANN qui déciderait que le bureau d'enregistrement doit rendre cela disponible au niveau mondial et que l'on doit avoir une copie extensive pour le monde entier. Je ne comprends pas pourquoi c'est plus accessible. S'il y a quelqu'un sur cet appel qui peut me le dire, je le remercierai de le faire. Merci. Parce que j'aimerais bien comprendre. Je pense que ça va être une discussion intéressante, en tout cas. Merci. Alain, rapidement, comme je voudrais te rappeler, je voudrais rappeler aux personnes qui ne sont pas vraiment très au courant de ce que c'est que le Ruiz épais et le Ruiz fin. Est-ce que tu pourrais nous dire la différence qu'il y a entre les deux types de Ruiz? Je pense que beaucoup de personnes, comme on a dû voter sur une déclaration, je pense que les gens devraient le savoir. Le Ruiz fin, et il y a seulement quelques TLD, mais ça comprend .com, .net. C'est tout ce qui concerne les registrants est gardé par les bureaux d'enregistrement. Dans l'autre Ruiz, toutes les données qui sont visibles sont copiées et au registre, dans les registres, et le registre va fournir ces informations. Le Ruiz épais, hein, il manquait le Ruiz épais, hein, oui, le Ruiz épais, dans le Ruiz épais, le registre a l'ensemble des données et le bureau d'enregistrement a une copie, mais le registre est le dépositaire officiel. Alors que dans le Ruiz fin, la seule information que gardent les registres, c'est lorsque le nom est donné et le nom est donné concernant le bureau d'enregistrement. Tous les nouveaux registres sont épais. Peut-être qu'il faudrait demander à quelqu'un d'autre de préciser un petit peu cela, une correction pour la transcription. D'abord, nous avons Fatimata Cambronello qui veut prendre la parole. Fatimata, vous avez la parole. Fatima Cambronello, vous avez la parole. Merci beaucoup, Olivier. C'est Fatima. Je voudrais poser une question plus qu'un commentaire. Je vois qu'il y a un problème très intéressant concernant le Ruiz, mais je ne comprends pas très bien cette question. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un webinaire concernant ce problème du Ruiz, hein, pour mieux comprendre comment ça fonctionne? Voilà, c'est la question que je voudrais vous poser. Merci beaucoup, Fatima. Et donc, le groupe de travail est sur le Ruiz et son président, on peut leur demander s'ils peuvent nous aider dans ce sens-là. Carlton, vous avez la parole. Merci, Carlton. C'est moi, Carlton. Oui, nous avons eu un webinaire là-dessus, mais on pourra en faire un autre. Nous allons organiser une réunion à Pékin. Et nous avons l'intention d'utiliser cela pour inviter des experts et nous expliquer un petit peu tout ça. Ce que nous avons déjà fait, c'est nous avons fait des entrées sur la liste qui vont permettre aux gens de dire et de donner leur position et de... Le problème de la privacité, par exemple, et la façon dont on présente les données, je dois vous dire que ici, le problème clé, c'est que la politique actuelle dit que les données WHOIS, et c'est quelque chose de très circonscrit, ce sont des informations très circonscrites concernant le registrant, que ça doit être disponible aux utilisateurs d'Internet, et il est dit que ça doit être, que ça doit figurer sur le site Internet, qu'on doit pouvoir y accéder en tout cas. Et le gouvernement des États-Unis est dans le document, dans les engagements et les affirmations a dit que ce WHOIS épais doit être respecté par ICANN et que ces données doivent être fournies et que les personnes qui habitent, les personnes qui doivent respecter ces obligations et que cela risque de diminuer les droits de privacité des registrants et que lorsque l'on a un WHOIS épais. Et rappelez-vous que Alain Labou l'a dit, le WHOIS épais et le WHOIS fin sont des représentent l'ensemble des enregistrements. Le fait que s'ils deviennent épais, ils seront sujets à la position de politique générale, du gouvernement américain. C'est pour ça que certaines personnes pensent que c'est un problème vraiment pour les personnes qui veulent adhérer au modèle épais. C'est pour ça que si le modèle épais et s'il y a un PDP qui déclare que tous les registres doivent être épais, alors, les deux registres, les registres qui vont devenir, vont, tous les registres d'ensemble vont devenir épais et comme beaucoup sont situés aux États-Unis, ils vont être sujets à l'intérêt public et aux perspectives d'intérêt public imposées par le gouvernement américain. Donc, voilà. Dans cette discussion jusqu'à maintenant, vous allez voir que il y a certains mouvements des médias qui parlent de privacité et qui disent, d'accord, vous pouvez avoir empêché les utilisateurs finaux d'accéder à ces données, mais, et c'est là que cet argument apparaît, hein, on doit dire qui on est, on doit où on est, etc. Et on voit des mouvements, hein, une tendance, hein, qui propose la privacité absolue. Mais je pense que les gens commencent à comprendre que on ne va pas pouvoir avoir un prérequis de privacité absolue. Les utilisateurs finaux devraient avoir accès à ces données. Et ce que je pense qui est en train d'apparaître, c'est que on a une réalité et qui est qu'on n'aura pas un changement de perspective politique de la part des États-Unis, un changement à 100%. Merci beaucoup, Carlton. Merci pour cette présentation. Et sur ce point, qui est vraiment un sujet très intéressant, hein, la question de la privacité, la question de beaucoup de points de vue aussi, hein, qui existent sur ces questions-là. Et je ne veux pas qu'on rentre dans une discussion là-dessus au sein d'ALAC, mais je sais qu'il y a des intérêts au sein de la communauté sur ces points-là. Et je dois remercier Fatima pour avoir abordé cette question. Et il y a un certain manque de connaissances aussi, et de connaissances approfondies dans beaucoup de parties du monde. Et je pense que ce serait bien d'avoir un webinaire sur le Who is, un webinaire, et aussi de permettre aux gens de participer au niveau de la communauté at large et de présenter leurs opinions. Je vois que Avery a dit que le WIS épée va diminuer la privacité. D'autres ont dit que, et d'autres ont d'autres points de vue concernant les obligations du registre et des données à fournir. Je pense que c'est un sujet très large. Et je pense que une webinaire pourrait être intéressante. Nous avons maintenant Alan et Tijani. Alan, vous avez la parole. Merci. Rapidement, je voudrais vous dire que je pense que c'est très important d'essayer de séparer les problèmes. Il y a une question des problèmes de privacité importants qui sont liés au WHOIS. Le WHOIS a été conçu il y a des dizaines d'années. Il faut aborder ce problème maintenant. ICANN doit essayer de pénétrer dans cette jungle. Hein. C'est très compliqué. Et il y a beaucoup d'opinions différentes. Et pour savoir si ces questions de privacité ont évolué depuis. Donc c'est important d'essayer de séparer les problèmes, hein, de ne pas réunir tous les problèmes. La discussion qui doit exister au sein d'At Large sont des discussions concernant le WHOIS, et on voit qu'il y a beaucoup de positions différentes. Hein. Et on ne parle pas obligatoirement de la différence entre les WHOIS épais et le WHOIS fer. Hein. Merci beaucoup, Alain. Je remarque aussi qu'il y a d'autres secteurs d'ICANN dans lesquels cette discussion a lieu aussi concernant les WHOIS. Hein, et la question technique du WHOIS, on voit que cela touche une grande une série de problèmes hein, ici. Et donc c'est un sujet très large et très complexe. Tijani, vous avez la parole. Oui, merci Olivier. Je pense qu'il y a un manque de connaissances concernant le WHOIS. Je pense que c'est un sujet très important, très intéressant pour le groupe de travail concernant la formation de compétences. Et comme action à suivre, je propose au groupe de travail de dire à ALAC d'aborder ce problème dans une formation de compétences. Merci Tijani et Olivier. J'ai pas très bien compris votre dernière phrase. Est-ce que vous pouvez répéter? Olivier, c'est Heidi. Bien, je vais lire l'action à suivre de la part du staff, que le staff va m'envoyer parce que je n'ai pas très bien compris. Ah, ok, d'accord. Bien, on me le dit ici par écrit. Merci, c'est Jani. Donc, on peut passer donc au point suivant. C'est donc les commentaires publics ouverts actuellement. Ce sont des questions importantes. Je ne pensais pas qu'on allait passer autant de temps là-dessus, mais c'est important. Et je pense qu'actuellement, nous avons la consultation du processus de notification de sécurité de Yana. La période de commentaires a été étendue jusqu'au 28 février 2013. Et nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de déclaration sur ce point-là, c'est très technique. Est-ce que quelqu'un doit penser que est-ce que quelqu'un pense qu'il devrait y avoir une déclaration? Si vous le pensez, levez la main ou dites-le-moi à travers le chat. Sinon, nous passons au point suivant, donc le livre blanc d'At Large sur les futurs défis et que ICANN doit relever. Et nous avons trois documents. La période de commentaires est ferme le 11 janvier. A fermé le 11 janvier. La période de réponse ferme le 1er février. Et donc, nous allons continuer à avancer. Si personne n'a quelque chose à dire, Evan, quel est votre plan après cela, s'il vous plaît? Merci, Olivier. Oui, c'est Evan. Jean-Jacques et moi-même, nous allons travailler sur les différentes réponses pour les rédiger et nous allons présenter une réponse. Dans certains cas, ça va demander quelques changements du document lui-même qui seront présentés au groupe de travail par Jean-Jacques et moi-même. En même temps, il y a une série de commentaires qui ne vont probablement pas nous mener à des changements dans le document, mais qui au moins vont donner lieu à une réponse de la part du groupe de travail pour expliquer pourquoi nous n'avons pas mis en œuvre ces modifications. Actuellement, c'est un travail qui a lieu, qui est en cours. Il n'y a pas de défi, de changement. Et nous allons, au niveau du groupe de travail, parce que les modifications de ce type doivent revenir ici, mais actuellement, nous sommes dans le processus de voir quels sont les changements à faire et en fonction des réponses reçues. Nous avons le plan d'organiser un groupe de travail sur ce papier à Pékin. Et il n'y aura pas une réunion concernant les futurs défis, mais il y aura un atelier de ICANN sur ce document. Merci beaucoup, Evan. Maintenant, nous avons le point 4 et la demande de retrait du propriété croisée. Cela est fermé depuis le 21 janvier 2013, donc depuis hier. Il n'y a pas eu de déclaration jusqu'à maintenant. Je n'ai vu personne réagir dans ce sens. Et si vous avez une déclaration à faire, dites-le nous. Nous passons au point suivant. L'amendement de l'article 11, la section 2.3 de ICANN, des statuts d'ICANN. Et s'il y a des changements à faire dans le statut, je sais qu'ALAC considère la possibilité de faire une déclaration. Je voudrais savoir si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus, si vous êtes au courant de ce que fait RSAC. Je ne sais pas si Julie Hammer peut nous en parler ou Alain Greenberg, et que quelqu'un peut prendre la parole sur ce point. Quelqu'un qui soit assez proche de RSAC. Bien, Alain. Bien. Nous pouvons regarder rapidement. C'est quelque chose qui a changé dans les statuts. Dans le passé, nous n'avions pas, à l'exception de certaines situations, nous n'avions pas regardé de près les changements et effets sur le statut, sauf lorsque il y avait des raisons valables de changer les statuts. Et notre connaissance du RSAC et les membres du RSAC, en tout cas, est plus ou moins lointaine. Mais je pense que Sébastien Bachelet peut nous en parler. Oui, je peux essayer en tout cas. Et pour résumer la situation, je dirais que c'est pour que le RSAC s'aligne sur ce que fait le SSAC et pour permettre d'avoir une période de participation pour le président et ce genre de choses. Donc, si vous voulez, l'idée principale ici, et c'est que nous sommes obligés de le faire à cause des statuts, parce que ça, c'est contenu dans les statuts, mais à notre avis, ce serait mieux de passer à un autre document, de modifier les statuts, parce que nous devons, et on ne peut pas modifier les statuts tous les deux jours, parce qu'il faut changer quelque chose dans les SO et dans les SO. C'est quelque chose que nous devons voir dans le futur pour avoir un statut plus court, avec les principaux points, les principales idées à appliquer et concernant ICANN. Et je pense que c'est quelque chose qui va être bientôt fait, qui va nous permettre de faire moins de modifications dans les statuts eux-mêmes. Mais en ce qui concerne le RSA, c'est vraiment pour permettre d'avoir une meilleure vision sur la façon dont c'est organisé, qui est responsable depuis ou pendant combien de temps, quels sont les objectifs de ce changement des statuts. Je dis cela en tant que membre du comité d'amélioration, qui est un sous-groupe et responsable de discuter avec les membres du SAC sur ces points-là. Hein. Merci beaucoup, Sébastien. C'est très bien, c'est très utile, dit Olivier. Et toutes les améliorations du système sont positives et sont les bienvenues au sein de notre communauté. Bien, donc je ne pense pas qu'il y ait d'objection dans ce domaine. Et pour les améliorations de RSAC, du RSAC. Nous pouvons passer au point suivant, qui est le rapport de problèmes préliminaires sur la traduction et la translittération pour les informations de contact. Bien, alors, c'est un point intéressant. Il s'agit d'un rapport préliminaire. C'est quelque chose qui est lié, comme dit son titre, à la translittération et à la traduction des informations de contact. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce point? Je n'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. J'ai rapidement lu cela. Je sais que c'est quelque chose qui est très spécifique. Est-ce que quelqu'un que ALAC doit faire une déclaration là-dessus? Bien, je ne vois personne qui lève la main, donc je pense que nous pouvons décider que ALAC ne fera pas une déclaration là-dessus, sur ce point-là. Et bien, parfait. Et nous passons au point 6, consultation sur les standards de performance de la redélégation de la délégation des GTLD et la consultation sur la délégation et la redélégation et les standards de performance de les CCTLD. Donc ces deux points-là utilisent la même langue, mais le premier concerne les TLD génériques et le deuxième les TLD de code de pays. Il y a eu un appel d'Excom la semaine dernière et Sharon Langdenor et Alain Greenberg ont participé et annoncé qu'ils allaient préparer une déclaration et préliminaire conjointe. Donc le premier est la liaison du CCNSO et l'autre du GNSO. Est-ce que vous voulez expliquer rapidement ce que vous pensez de ce point-là? Ce que vous pensez de cela? Et Cherry Langdenor. J'ai tout cela sur mon ordinateur, je n'ai pas vraiment ça sous la main, donc je dirais rapidement que ce sont des problèmes très importants pour Internet et pour la communauté d'Internet. Je pense que c'est très important. Et nous devons faire un commentaire sur ce point. Je pense que c'est une approche approfondie que nous avons eue et nous devons nous assurer que certaines questions seront abordées à travers les travaux, les recherches faites sur des questions comme, par exemple, les indicateurs de performance clés pour la délégation et la redélégation. Si nous sommes sûrs que les utilisateurs finaux d'Internet et les communautés d'Internet dans certains domaines comme les CCTLD ont suffisamment le temps d'être informés et qu'elle sera et que la communauté peut interagir et donner son opinion. 60 jours, peut être suffisant ou pas pour analyser donc ces indicateurs de performance. Je pense qu'il faudrait que cela reflète les opinions des utilisateurs finaux d'Internet et de la communauté en général et des utilisateurs. Merci beaucoup pour ce résumé, Cheryl. Et nous attendons donc votre déclaration.
Nous passons maintenant au programme des variantes IDM. Et on a un rapport en version finale. On examine les implications des variantes IDN actives. Pardon, c'est les variantes TLD actives. La période conclut le 1er mars. Donc, on a un groupe de travail sur les variantes IDN qui prépare une déclaration. Je ne vois pas Rinalia sur la liste, ni Edmund Chung, malheureusement. Est-ce que quelqu'un sait quand est-ce qu'ils m'ont présenté cette déclaration? Bon, on va devoir s'attendre jusqu'à ce qu'ils nous remettent cette déclaration, mais je suis convaincue qu'ils vont présenter une déclaration, qu'ils sont en train de la rédiger. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'ai simplement un petit commentaire à faire, et c'est quelque chose qui me préoccupe un peu. J'ai vu que Alan a rédigé plein de déclarations, et je le félicite de son énorme travail. Mais on devrait avoir un effort conjoint. Je voudrais voir davantage de membres d'ALAC et des contributions des personnes qui ne sont pas membres d'ALAC aussi pour rédiger ces déclarations. C'est très important de travailler ensemble. En outre, de pouvoir préparer ces documents. Donc j'espère qu'on aura davantage de bénévoles dans l'avenir. Pour recevoir cette vague de commentaires qu'on requiert. Normalement, on a davantage de personnes qui nous rejoignent avant les réunions d'ICANN. Et je pense que ce serait pas juste, et en même temps, ce serait impossible pour une seule personne de coordonner des groupes avec autant de personnes. Mais je veux remercier Alan spécialement du travail qu'il a fait pendant ce dernier mois, cette période de Noël et des vacances. Et il y avait plein de personnes qui n'étaient pas là et lui, il a travaillé. Et en même temps, je voudrais remercier Evan aussi d'avoir voyagé en Inde pour pouvoir maintenir le contact et les intégrer au monde d'ALAC. Oh, je lis qu'on souhaite la bienvenue à Rinalia qui vient de nous rejoindre. Je ne sais pas si tu nous entends, Rinalia, mais on vient de mentionner le programme des variantes IDN pour les TLD et le rapport final qui examine l'expérience des utilisateurs et les impacts que les variantes TLD actives ont sur cette expérience. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Rinalia a dit qu'elle devrait vérifier cela avec Edmond, puisqu'il dirige ce groupe. Parfait, alors on passe directement au sujet à discuter. Et le point numéro 7 sur notre ordre du jour est la discussion post-WCIT. On a organisé un webinaire la semaine dernière et on a eu beaucoup de personnes qui ont assisté. Combien de personnes au total, Heidi? Heidi dit que c'était 39 personnes. 39. Je pense que c'est le numéro exact, 39. Bien dit, Olivier, 39. Et on avait un panel excellent. Je voudrais remercier aux membres de ce panel. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à ce webinaire, on a les enregistrements en ligne qui ont été publiés partout et il y a aussi une version de la transcription qui sera publiée Il nous reste à décider comment on va suivre. Ce que j'ai déjà mentionné et que je ferai et que je voudrais maintenir et participer à certaines des discussions des participants qui se font à huis clos en général. Et ce que j'ai vu, il y a deux choses que j'ai vues en fait, et c'est d'abord que beaucoup des membres de notre structure étaient engagés dans le champ de travail, mais aussi chez eux, et non seulement avec les gouvernements, mais aussi avec leur propre communauté. Et donc cette capacité d'agir au niveau local doit être garantie pour qu'on puisse interagir avec l'utilisateur final. Et Sally Costerton, qui est la nouvelle vice-présidente de l'engagement des parties prenantes, l'a confirmé. Je me suis réunie avec elle il y a deux semaines en fait, à Londres. Et on a maintenu une longue discussion là-dessus. Elle a dit que ça prendra beaucoup de travail de la part d'ICANN, mais qu'on a besoin aussi d'avoir l'engagement des communautés. Je voudrais mentionner à ce point-là, par rapport à la façon dont AdLarge va avancer, certains points. D'abord, je voudrais mentionner l'engagement local à niveau global. C'était très clair que les communautés locales incluent non seulement la société civile, mais aussi tous les acteurs de la scène locale, que ce soit des personnes du secteur privé ou la société civile, ou les gouvernements, ou les organisations non gouvernementales. Tout le monde doit participer et ils ont besoin d'une main qui les aide à s'intégrer à notre modèle de multiples parties prenantes. On est une organisation multipartite et beaucoup de membres habitent dans des pays où l'on soutient la démocratie et la participation et ils croient qu'on n'est pas en train de bien travailler. Je me suis réunie avec beaucoup de personnes entre les sessions, dans les réunions d'ICANN, et ils sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient déjà essayé de s'engager à ICANN, mais qu'ils n'avaient pas été bien reçus, qu'en fait ils avaient été rejetés, que c'était comme un club privé. Et c'est à nous de faire ce travail de modifier la façon d'agir d'ICANN. Et je pense que nos groupes de travail pourront présenter le travail et des propositions au comité et aux différentes parties du directoire qui travaillent avec l'engagement des communautés, mais aussi avec les ALS qui pourraient travailler sur place pour engager les parties prenantes locales. Et on devrait renouveler notre travail avec la sensibilisation. Et je pense que c'est le bon moment pour commencer à travailler dessus. Un autre point qui est très important est le renforcement de compétences. Et je vois que Tijani lève la main dans deux secondes pour dire oui, renforcement de compétences, c'est important. Il faut qu'on le prenne au sérieux. Il me semble qu'ICANN va prendre ce sujet au sérieux partout dans l'organisation. Mais avec un très petit budget, on a beaucoup travaillé et notre travail a été reconnu et il a été montré grâce à ce que l'on a organisé à Dubaï. Et donc on a besoin d'avoir des connaissances pour le renforcement de compétences. Et je suis sûre que le travail local qu'on a tous fait dans nos régions, dans nos râleaux, à Dakar, à Costa Rica, à Toronto, mais que l'on organisera aussi pour Beijing, bien sûr, est très important. Et il faut qu'on le réunisse, tout ce travail, toute cette expérience, en un document auxquelles les personnes puissent accéder. Donc je veux que tout le monde ait la parole pour discuter ce point, parce que d'une part, nous avons l'Académie ICANN et le groupe de travail qui travaille sur cette Académie ICANN et les efforts que Salah lidère dans son groupe de travail et le travail de Tijani aussi, qui est le coprésident du renforcement de compétences. Tout cela conforme ses compétences. Donc, on devrait discuter comment suivre et quel serait le premier pas pour pouvoir continuer d'avancer, à engager la communauté et pour pouvoir modifier cette situation que l'on a et pour raccourcir cette brèche entre les personnes qui comprennent ce qu'on fait et les personnes qui ne le comprennent pas. Tijani Benjema, vous avez la parole. Merci Olivier, dit Tijani. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les personnes sont venues nous voir et qu'elles ont été rejetées. Au moins, ce n'est jamais le cas pour Afralo. C'est plutôt le contraire, en fait. On cherche toujours à pouvoir engager des personnes, à les intégrer à ICANN. Je pense que ce n'est pas un vrai cas, parce que dans l'Oralo et dans l'ICANN, tout est ouvert. Et donc, tout le monde peut voir ce qu'on est en train de faire. Et si quelqu'un vient et essaie de s'engager dans une de nos ralos en tant qu'ALS, et je parlerai d'Afralo parce que c'est le cas que je connais, on a rejeté que 2 candidatures, et en fait ce n'était que parce qu'elles étaient plutôt commerciales. Elles devraient s'intégrer au recrutement des commerciaux, et on a trouvé qu'on pouvait pas défendre l'intérêt public. Et à de large dépend toujours de l'intérêt public. Mais toutes les autres candidatures ont été soit acceptées ou rejetées suivant d'autres critères, que ce soit parce que ce n'était pas des vraies candidatures, parce que les informations n'étaient pas précises ou n'étaient pas vraies. Et d'autre part, n'importe où que nous allions, on essaie de faire le lobby pour ICANN, de trouver de nouvelles relations. Donc je pense que si quelqu'un dit qu'ils n'ont pas été intégrés, qu'ils ont été exclus, qu'ils nous le fassent savoir et qu'ils nous fassent savoir en même temps pourquoi ils se sont sentis rejetés. Par rapport au renforcement de compétences, tu as raison, on a besoin de faire davantage d'efforts sur le renforcement de compétences. En ce moment, on a une échelle plus raisonnable de ce qu'on peut faire et il faut qu'on le fasse rapidement. Le groupe de travail du renforcement de compétences a identifié les besoins de renforcement de compétences dans notre communauté, dans la communauté à large. Et ce groupe de travail va définir aussi quelle serait la formation dont les personnes ont besoin comme partie ou dans le cadre du renforcement de compétences. En même temps, on travaillera sur les outils dont on devrait se servir pour le renforcement de compétences et on va voir comment ICANN peut trouver un programme pour que ce renforcement de compétences puisse se faire à partir de l'Académie ICANN dans l'avenir. Donc je pense que ce sera un programme très bien fait. En ce moment, on a toujours besoin de continuer de travailler sur le renforcement de compétences hors l'Académie ICANN, parce que l'Académie ICANN est toujours en voie de développement. Donc, on doit continuer de s'occuper du renforcement de compétences dans nos réunions, comme on l'a fait à Dakar, à Costa Rica, etc. Et on a besoin d'être soutenu par ALAC et par ICANN dans le sens large. Il est très important qu'on soit soutenu. Et par exemple, pour Afralo, on a organisé cette session de renforcement de compétences à Dakar, mais on a besoin d'avoir une partie additionnels pour le renforcement de compétences. Et donc, on a commencé à travailler sur des sessions ou des réunions virtuelles. Et on se demande comment on devrait souligner ces questions des personnes dans l'avenir. Donc, c'est un processus constant. On n'aura jamais fini. Si on veut que la communauté s'engage vraiment avec ICANN et qu'elle participe à ICANN, il faut que le renforcement de compétences soit vraiment un processus continu. Merci. Merci, Tijani. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit Olivier, sauf qu'au début, tu as mentionné des critiques. Et les critiques, en fait, n'étaient pas faites par rapport à Adlarge, mais c'était plutôt des critiques pour ICANN. Et ce n'était que pour la réception, l'engagement des personnes qui avaient essayé de rejoindre certains des groupes de travail de la GNSO, ou la GNSO même en elle-même, ou d'autres secteurs d'ICANN. Mais ce n'était pas une critique pour Adlarge. Je sais que cette communauté a très bien intégré les nouveaux arrivants pour qu'ils s'engagent aux différents processus. On a Alan Greenberg d'abord et puis Fatima Cambronero. Oui, merci, dit Alan Greenberg. Je voulais simplement faire un commentaire par rapport à ce que tu as dit. Je pensais que tes commentaires étaient pour ICANN et pas exclusivement pour ICANN, pour Adlarge. Adlarge a été critiqué, pas par exclure les personnes, mais par le jargon dont on se servait lorsqu'on parlait et sur les sujets qu'on traitait et lorsqu'on menait les discussions. Et donc, il faudra qu'on éduque les personnes, qu'on les apprenne de quoi on parle. C'est un problème d'ICANN en général et pas nécessairement un problème d'Adlarge. Il y a des personnes d'autres organisations qui essaient de s'engager aussi. Et qui n'ont pas nécessairement été bien traités. Merci. Merci Alan. Maintenant nous avons Fatima Cambronero. Merci Olivier, c'est Fatima qui prend la parole. J'ai juste un petit commentaire à faire. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que Tijani disait par rapport au renforcement de compétences et par rapport au fait qu'on a besoin de faire de grands efforts. Je pense que dans certains cas, on n'a pas besoin d'autant d'argent ou d'autant de temps. On a simplement besoin de plus collaborer. Et depuis la réunion de Costa Rica, la CRALO a travaillé sur le développement de sessions de renforcement de compétences lors de toutes nos réunions mensuelles. Et l'année dernière, on a invité des membres de différents regroupements et des membres de différents secteurs d'ICANN. On les a invités à venir discuter de nouveaux problèmes. On les a invités à participer de nos réunions. Donc, pour les membres et pour les équipes, ce serait bien de pouvoir savoir qui peut parler de chaque sujet. Donc, ce n'est pas à nous d'aller demander des fonds à ICANN, ni d'aller demander de nous faciliter des orateurs étrangers. Donc, c'est un grand pas pour ne plus avoir à demander des fonds. Et c'est un sujet qu'on a discuté avec Nathalie Ansis. On sait que c'est possible et on travaille pour ce faire. C'est ça que je voulais dire. Merci. Merci Fatima, dit Olivier. Ce renforcement de compétences peut certainement être fait à de différents niveaux. J'ai été présent lors de plusieurs appels mensuels de la CRALO et la section de renforcement de compétences de leurs appels était toujours très intéressante. Il y a 2 heures, ils ont mentionné l'idée d'inviter Andrés Piazza à participer de leur session. Et c'est intéressant pour beaucoup ou pour la plupart des membres lors des appels parce que ça présente une discussion sur les problèmes des RALO, mais ça change aussi l'essence de l'appel. Ça devient un processus où l'on peut tous participer. Et j'espère que tous les râleaux vont suivre cet exemple et cette suggestion qui est très intéressante. J'ai été très intéressée à ces appels que la CRALO a organisés. Très bien. Je pense qu'on a bien conclu la façon, ce qu'on voulait dire par rapport à la façon d'avancer avec At-Large, avec la discussion post-WCIT, et on va le suivre de façon mensuelle. On a maintenant la mise à jour des groupes de travail d'At-Large que l'on a sélectionnés, et les présidents des groupes de travail vont le faire. On a le groupe de travail sur les règles de procédure d'ALAC de Cheryl Langdonor, le groupe de révision des nouveaux GTLD par Devanand Telaksing et le sous-comité d'ALAC sur les ATRT 2 par Rinali Abdulrahim. Donc au milieu, on aura Cheryl Langdonor. Merci Olivier, c'est Cheryl Langdonor qui prend la parole. J'ai une mise à jour très brève mais très importante pour ALAC. On arrive à la conclusion des règles de procédure. Et il faut qu'on se souvienne que ce groupe de travail inclut d'autres aspects de notre travail, tels que les paramètres, le sous-comité des paramètres et des métriques. Et l'ALAC, au complet, attend impatiemment notre rapport. J'espère pouvoir le faire et vous fournir une mise à jour aussi des sites sur lesquels nous travaillons de façon régulière à travers les différents groupes de rédaction. On a introduit aussi la version préliminaire pour qu'elle soit révisée. Et peut-être Olivier qui pourrait nous fournir une téléconférence courte visée à aborder ce point seulement. Et on devrait donc avoir la version préliminaire de règles de procédure entre nos mains à ce moment-là. Entre aujourd'hui et février, la réunion de février, j'aimerais bien que l'on puisse donc réviser les règles de procédure et qu'on en discute et qu'on interagisse avec nos groupes de travail pour pouvoir maintenir les conversations et pour pouvoir faire des commentaires créatifs qui contribue à ce processus. Cependant, il faut que je fasse la mise à jour sur deux sujets particuliers. D'une part, des activités à Pékin, et d'autre part, ce que je voudrais vous proposer. En tant que RALO et dans le cadre de la structure At-Large aussi, pour qu'on organise des réunions à Pékin. On a une ligne particulière, c'est un texte de 22 mots à peu près. La rédaction actuelle parle des règles de procédure et dit que le groupe de rédaction a discuté récemment ils ont essayé donc de fixer des nominations, des élections et de les intégrer dans les règles. Dans les règles 27.7, c'est le numéro actuel. Ce sera probablement un numéro différent lorsque le document sera achevé. Et 27.4 est la façon ou la modalité d'adopter des élections. ce qui se centre sur la sélection à lac et à large du membre pour le siège numéro 15 du directeur à large. Et on est arrivé à un point particulier dans la version préliminaire actuelle, dans le 27.7, comme j'ai dit, qui mentionne la définition de victorette. Comme vous savez tout, l'électeur attendez, je fais un peu du mal à m'expliquer, mais puisqu'il est 3h36 ce matin. Donc ce que je veux dire est que la procédure particulière des élections travaillera à partir des 15 personnes qui intègrent ALAC et la nomination des RALO pour la personne qui voudrait le pouvoir dans le directoire. Je voudrais demander à ALAC qu'ils lisent cette version préliminaire qu'on leur a remis pour qu'ils considèrent par rapport à la modalité de sélection. C'est le point 27.7 dans ce travail inachevé. Qui tient compte de l'électorat actuel. Mais qui tient compte en même temps de ce que l'on a discuté dans la communauté pour qu'il ait l'occasion de réviser et même modifier cette définition de l'électorat telle qu'elle est en ce moment. C'est grâce à ça que je vous demande d'accepter les nouvelles règles de procédure en tant que version préliminaire et j'espère que vous les accepterez conséquemment dans leur version finale, mais sachant qu'elles vont devoir passer par un processus de révision de la communauté de façon immédiate dans cet aspect particulier du point 27.7. Il y a plein de points qui devraient être révisés, tels que si la communauté devrait modifier cette définition de l'électorat. Et puis, on a d'autres parties du 27.7 qui seraient probablement déclarées nulles. Mais c'est ce qu'on devrait faire à mesure que l'on révise cette règle et que l'on modifie selon si l'on modifie ou pas cette définition d'électorat. La proposition actuelle est que la définition de l'électorat pour le siège numéro 15 inclut la structure at large. De façon à ce que, aussi vite que possible, on puisse le passer à la communauté pour qu'elle le révise. Certainement, on devrait le faire avant la réunion de juin, puisque c'est une priorité. Il sera probablement utile pour que vos groupes de travail avec l'équipe de révision puissent travailler ensemble sur ces propositions. Mais cette modification particulière à la définition de l'électorat aurait d'autres prérequis, tels que de dire immédiatement le nom qui devrait être voté dès que possible pour que l'on ait un ordre conclu pour la propreté de cette structure d'arche pour les personnes qui ont été nommées récemment. Tel le cas de l'Australie et plein d'autres qui ont fait partie des structures à large selon la déclaration et selon la capacité de participer des organisations selon qu'elles soient justes ou pas. Que ce soit un processus équitative. On doit s'occuper aussi chacun de l'efficacité, bien sûr. Dans ce cas-là, j'ai déjà parlé lors de la réunion de Aperalo d'aujourd'hui qu'en tant que réunion, on a décidé, bien sûr, on aurait un programme pilote de réaccréditation qui est en train d'être développé, qui devrait être fait par toutes les régions. Par toutes les régions qui appartiennent à l'AC, bien sûr, mais ça va correspondre à toutes les régions de le faire. Et Aperalo, j'espère, pourrait présenter un numéro adéquat de structure pour passer par ce processus. C'est un rapport qui est très long. Et j'espère que vous allez voir ce site. Merci beaucoup. Merci, Cheryl, de ce long rapport. Et je voudrais remercier au groupe de travail des règles de procédure et l'équipe de rédaction qui ont beaucoup travaillé pour pouvoir atteindre ce point et ce niveau où les membres des groupes de travail des règles de procédure ont travaillé pour avancer. Par rapport à ce que tu as mentionné, il y a plein de discussions possibles. On a mentionné le siège numéro 15, mentionné dans l'article 27.7. Il me semble que la suggestion qui a été faite était qu'on devrait discuter cela dans un cadre plus large. Et je suggérerais que l'on organise une réunion dimanche, lors de la réunion de Pékin, pour pouvoir discuter ce point et atteindre le consensus ou trouver la direction que l'on voudrait suivre à Beijing. Donc je demanderai à Heidi, lorsque l'on passe le programme, lorsqu'on prépare notre programme, d'assigner spécifiquement du temps pour cette discussion. Et je pense que ce sera une longue discussion lors de cet appel. On devrait maintenant discuter le reste des règles de procédure et les mettre à jour. Est-ce que le reste des personnes présentes dans cet appel n'est pas d'accord avec cette idée? Donc, je pense qu'on a le consensus ici, mais je vois personne qui lève la main ni disent qu'il s'agit d'une mauvaise idée. Donc, on peut avancer ayant une mise à jour de ces règles de procédure. Vous pouvez les inclure dans vos rapports. Et je sais que vous serez ravis d'organiser une session pour dimanche à 7 heures.
Oui, Olivier, Tijani. Et vous dites, d'après ce que j'ai compris, de ce que vous venez de dire, c'est que la discussion aura lieu à Pékin et que l'adoption des nouvelles règles de procédure se feront ultérieurement. C'est ça que vous avez dit? Non, pas vraiment. Tijani, et Cheryl reprend la parole. Tijani, ce que je propose, c'est que les nouvelles règles de procédure pour se poursuivre comme prévu, mais j'accepte que comme j'approuve les nouvelles règles de procédure et qu'elles soient mises en œuvre pour réviser cette section en particulier et que cette section, la section 27.7, commence et que la discussion de la communauté et la révision commence à Pékin concernant cette discussion. Cheryl, donc, dit Tijani, l'adoption de la nouvelle règle de procédure n'aura pas lieu à Pékin, ça aura lieu avant Pékin. Je ne comprends pas pourquoi elles ne peuvent pas être adoptées à Pékin. Et toutes les personnes d'ALAC seront là. C'est possible, mais nous sommes déjà en retard sur notre programme. Ce serait mieux d'avoir toutes ces discussions et tout cela fait en ligne de façon à ce qu'on puisse faire une acceptation pendant la réunion d'ALAC de février et de voir les questions qui resteront en suspens à Pékin. Si Janice, est-ce que vous avez une réponse à donner? Non, mon opinion, c'est que au cours de cette réunion, tous les membres de ALAC seront présents et c'est mieux de voter lorsque tous les membres d'ALAC sont présents. Donc la discussion peut avoir lieu avant Pékin et l'adoption finale, le vote peut être fait à Pékin. Comme ça, tout le monde sera présent et pourra voter. Si Jani Sherrill reprend, oui. Ici, notre idée, vous appartenez au comité exécutif, vous pouvez conseiller quand vous voulez le président d'ALAC, mais l'ALAC aura ses règles de procédure et qui seront présentées pour la discussion avant Pékin, avant la réunion de Pékin. Voilà, c'est tout. Bien, merci. Olivier reprend. Alain Greenberg, vous avez la parole. Je voudrais ensuite continuer à avancer. J'ai peur que nous n'ayons pas le temps d'entendre les conclusions du groupe de révision des nouveaux GTLD. Hein. Alain, oui, je voulais juste dire que les règles seront prêtes pour leur approbation par ALAC à la fin du mois de février. Moi, je recommande que l'ALAC essaye d'organiser bientôt une réunion consacrée à cela, une téléconférence consacrée à ce point-là. S'il y a un échec dans ce domaine-là, cela pourra être reporté, mais je pense que ce serait très bien d'avoir ces deux règles déjà et en place pour Pékin. Comme ça, nous pourrons compter là-dessus. Merci beaucoup, Alain. Oui, je pense que notre souci ici est de ne pas avoir fait notre travail pour la réunion de Pékin. Et à ce moment-là, on va perdre du temps, on va perdre une journée ou une demi-journée à Pékin pour discuter ces points-là qui auraient dû être discutés. Donc, notre autre souci, c'est qu'il peut y avoir des membres qui ne pourront pas venir à Pékin. Donc, le vote en ligne, finalement, pour ce type de choses, est la meilleure solution parce que c'est rare d'avoir une décision prise unanimement et lors des réunions, hein, il y a toujours des questions, des personnes qui ne peuvent pas participer aux réunions et qui ne peuvent pas venir dans un pays donné. Un autre commentaire, il y a aussi une tendance dans les réunions face à face, c'est que les personnes font des discussions et essayent d'attendre la réunion face à face pour aborder les problèmes, parce qu'à ce moment-là, cela nous met dans une situation où nous devons et rédiger, nous ne pouvons pas approuver lors de la réunion. Donc, il serait crucial que les personnes lisent le document, posent des questions, fassent cela en ligne, et comme ça, nous pourrons résoudre cela et voter. À mon avis, si nous reportons cela à Pékin, nous allons devoir, à Pékin, affronter des choses qui vont nous obliger à rédiger cela. Hein, et nous ne voulons pas être en train de rédiger cela pendant le vol ou pendant la réunion pour approuver cela pendant adopter cela pendant la même réunion, ce serait un désastre. Hein. Donc, s'il vous plaît, il faut éviter cela. C'est très important. C'est à nous de faire notre travail et de le faire avant la réunion de Pékin. Merci. Yaovi, vous avez la parole. Yaovi? Oui, c'est Yaovi. Je pense qu'il serait bien aussi de régler ce problème avant Pékin. Ce que nous avons ici, on peut passer par le wiki pour le résoudre. Nous devons travailler en groupe et il nous faut avoir toutes les informations pour pouvoir prendre la décision avant la réunion de Pékin. Je pense qu'en mettant tout cela sur le site internet, les gens pourront être au courant. Donc, mon opinion, c'est que nous devons faire des efforts pour que ce soit réglé avant Pékin. Ça, c'est mon opinion. Bien. J'ai un petit peu eu du mal à comprendre ce que disait Yao Bi. Il est d'accord que le travail doit être fait avant Pékin. Oui. Nous devons faire cela avant Pékin et régler cette question des règles de procédure. Merci, dit Olivier. Donc, le point à suivre, c'est que dès que le groupe de travail qui travaille sur les règles de procédure aura fini son travail, il le donnera à l'acte. Il y aura une semaine ou deux pour que les membres puissent lire ces règles de procédure et cette déclaration. Et ensuite, nous ferons une téléconférence pour que la LAC puisse discuter ces règles de procédure et voter à ce moment-là. D'accord? Et nous prendrons la décision à ce moment-là si vous, pour savoir si nous voulons voter cela avant Pékin ou voter cela en ligne. Je pense que c'est la meilleure option pour ALAC. Et je voudrais s'il vous plaît qu'on avance, il nous reste plus que 10 minutes. Le groupe de révision des nouveaux GTLD, Dave Anand, vous avez la parole. Dave, vous êtes là? Oui, merci. C'est Dave Anand et Lexing. Le groupe de révision du nouveau GTLD a fait une téléconférence au mois de janvier. Avant cela, il y avait la fin de la période d'objection. Nous avons dû organiser un programme et pour les commentaires d'at large qui est finissé le 16 janvier pour les objections de la communauté. Il y a eu un webinar le 16 janvier 2013 et donc l'équipe de ICANN d'at large a fait un PDF d'une page qui a été publiée. Et depuis le 18 janvier, et je pense que cela c'est pour rappeler à tout le monde les délais qui sont pour les râleaux. Et je dirais que concernant ce délai, il y a plusieurs commentaires à faire concernant le groupe de révision des nouveaux GTLD et qui seront présentés, ils seront postés sur notre tableau de bord des nouveaux GTLD. Et donc, nous ferons des commentaires concernant .amazon, .cde, .capitonia. Il y a eu un .patagonia, il y a eu un point sur différentes choses, il y a eu un commentaire sur .africa aussi qui a été fait. Donc, tout cela s'est donné. On a fait un commentaire sur chacun de ces et de ces points qui figureront sur notre tableau de bord hein, et sur les pages wiki. Et pour l'appel qui a été fait le 21 janvier concernant Amazon, et des objections ont été lues et on continue à analyser les commentaires. Mais ces commentaires ont atteint le seuil pour les objections de la communauté. Et donc, il va falloir élaborer ces objections de la communauté. Le guide de candidature pour l'Afrique va permettre de déterminer si une objection basée sur la communauté va être acceptée ou pas. Donc, nous allons continuer à réviser les commentaires pour voir si ces commentaires répondent à certains critères en ce qui concerne le point CDE et pour les objections. ACB est un acronyme qui a beaucoup de significations, donc notre commentaire c'est qu'il n'y a pas assez de commentaires d'objections de la communauté, donc nous n'avons pas d'objections possibles en ce qui concerne point de On continue à réviser les commentaires pour déterminer si ces commentaires répondent aux critères pour donc le cycle d'objection de la communauté en ce qui concerne Point Patagonie. Et on a de nouveau des objections qui ont été réunies. Et il nous faut voir si cela répond à l'intérêt public. En ce qui concerne les commentaires de RG Glass, les commentaires interagissent avec un programme de nouveau GTLD. Il n'y a pas d'intérêt public en jeu ici pour une candidature de GTLD en particulier. Donc le groupe a fait ses commentaires et il n'y a pas d'objection pour la considération de nos groupes de nouveau GTLD. En ce qui concerne Point Africa, ce commentaire est l'expression de soutien des candidats pour Point Africa et c'est ici on a un intérêt public limité. En ce qui concerne les doodles pour la prochaine téléconférence concernant le nouveau GTLD pour les 28 et le 29 janvier à 20h30 UTC pour discuter les commentaires sur les autres chaînes et par exemple Point Amazon, Point Patagonia, Point NYC et on va voir si cette réunion va être faite. Voilà, j'ai fini, merci. Merci beaucoup, Dave. Merci pour le travail réalisé par votre groupe de travail. Vous avez fait beaucoup de travail. C'est un travail très important parce que c'est la première fois que Atlas elle peut travailler sur ces problèmes. Je sais qu'il y a certains soucis de la part de la communauté, de certains candidats qui veulent savoir si la LAC va présenter des objections à certains processus. Et donc, je suis contente de voir qu'on a fait un bon travail dans ce domaine et bien analysé l'évolution de tout cela. Alan Greenberg, vous avez la parole, brièvement, oui, très court. Est-ce quelque chose dont nous ne devons pas discuter aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant de considérer, dans la mesure où on voit ce processus, c'est est-ce que ces choses dont nous sommes convaincus pour lesquels nous sommes convaincus, il faudrait faire des objections, mais il n'y a pas des critères même et pour la part d'ICANN pour une objection formelle ou les critères fixés par ALAC pour ce type de choses. C'est une expérience qui évolue pour le deuxième cycle. Nous allons savoir si nous avons bien travaillé, si nous avons suivi nos règles, mais aussi si nous avons fait du bon travail et si nous avons respecté et les processus d'objection. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des raisons de faire une objection? Est-ce que nous n'avons pas bien travaillé? Nous devons aborder ce processus d'objection correctement. Donc, nous devons voir vraiment pour que lorsqu'il y aura une deuxième situation de ce type, les problèmes ne surgissent pas à nouveau. Il nous faut tirer des leçons de cette première expérience. Merci. Merci beaucoup, Alan. Bien. Nous avons fait donc bon travail. Merci, Dave. Et vous espérez que vous recevrez davantage de commentaires sur les autres pour les autres candidatures, hein, Point Patagonia, Point NIC, etc. Oui, c'est moi, Dave, oui. Vous pouvez aller au tableau de bord des nouveaux GTLD. Je l'ai mis sur le chat. J'ai mis le lien sur le chat. Et il y a plusieurs pages wiki en lien avec ce tableau de bord. Donc, vous pouvez accéder à tout cela. Merci, Dave. Nous avons maintenant le sous-comité d'ALAC sur le ATRT2, Rinalia Abdulrahim. Vous avez la parole. Merci, Olivier. Rinalia Abdulrahim. Vous m'entendez bien? Il y a un grand écho, hein? On ne vous entend pas très bien, Rinalia. Allez-y. Bon. On va essayer de vous suivre. et les représentants d'ALAC concernant les ATRT2, Olivier Crépin-Leblanc, Jean-Jacques Souvenin, Alain Grimberg et Dave Anand, qui sont des membres d'ALAC. Nous avons plusieurs candidats. Et nous avons des résultats et des recommandations à donner pour ALAC. Et je vais bien, c'est tout, Olivier. Merci, dit Rinalia. Merci beaucoup, Rinalia. Et nous nous excusons, les interprètes n'ont pas pu traduire et il y avait trop de bruit sur la ligne de Rinalia. Alain, vous avez levé la main. Oui, je me demande un peu, dit Alain, puisque certains candidats sont des membres de ALAC. Est-ce que ALAC considère et que ces membres doivent voter? Est-ce que c'est logique? Je pense qu'il faudrait ici avoir une position pertinente là-dessus. C'est quelque chose auquel nous devrons réfléchir avant d'ouvrir le vote, il me semble. Oui, merci Alain, dit Olivier. Moi, je pense que puisque la recommandation vient d'un groupe qui n'inclut pas les membres comme membres votant ces candidats, et le groupe devrait confirmer la recommandation d'un sous-groupe. Mais il faudrait être d'accord là-dessus. On peut y repenser. Merci Alain. Carlton, vous avez la parole. Merci Olivier. Carlton, je voulais faire la même suggestion que Alain. Je suis contente de voir qu'on est d'accord. Je suis d'accord avec lui en tout cas. Le groupe qui recommande cela n'est pas celui et auquel appartiennent les candidats. Donc je pense que le conseil ne devrait pas les exclure. Je voudrais aussi dire que Roxana, dans le chat, a parlé du problème des ATRT2 en tant qu'expert indépendant. Je ne suis pas sûre si cela est lié au problème que nous sommes en train de discuter ici, c'est-à-dire que ALAC va soutenir ses candidats. Est-ce que Rinalia pourrait nous préciser ici et nous expliquer ici ce qui est correct. Rinalia, les membres d'ALAC qui travaillent comme experts indépendants pour ces sous-comités, les individus qui travaillent comme experts indépendants ne sont pas considérés comme des membres d'ALAC. Merci Rinalia. Tijani, vous avez la parole. Merci Olivier. Tijani, si on considère que les membres d'ALAC qui sont candidats pour la TRT2 doivent voter, nous devons faire la même chose pour tous les autres types de vote. Je me souviens que Sébastien, lorsqu'il était candidat, il n'avait pas voté. Et Uralo a nommé quelqu'un d'autre pour voter à sa place. Donc nous devons être en accord avec cela et travailler tous de la même façon. Nous ne pouvons pas appliquer des règles différentes. Nous devons appliquer les mêmes mesures pour tout le monde. Merci, petit Gianni. Le processus est différent ici. Le processus ici, c'est que le groupe lui-même va choisir ses candidats. La seule chose que ALAC va faire, ça va être ratifier le choix du groupe de travail. Le choix précédent, les membres d'ALAC n'ont pas voté, mais il y a une différence ici. Alain, vous avez la parole. Puisque on a une règle qui fait que les abstentions ne comptent pas comme négatives, on peut survivre à cela. Donc je pense que la sélection du board et ce problème ne présente pas un précédent. Normalement, lorsqu'on vote pour un président, lorsqu'on vote pour les liaisons ou pour les différentes fonctions pour lesquelles l'ALAC doit voter, on n'a pas une règle qui dit que le candidat doit s'abstenir. On a fait beaucoup de votes de ce type. Donc, jusqu'à maintenant, ça a été un système normal. Certaines personnes choisissent de s'abstenir, d'autres non. Je pense que on n'est pas obligé d'avoir les trois candidats qui prennent que trois candidats prennent la même décision pour une question de pertinence. Je pense que la question du board, c'est différent. Hein. Ce n'est pas un précédent, c'était des élections différentes. Et ici, il s'agissait des statuts obligatoires d'ICANN. Nos nouvelles règles de procédure n'ont pas ajouté une nouvelle règle ici. Et les personnes peuvent voter et quand ils sont candidats ou ne pas le faire. Tijani, vous êtes d'accord? Oui. Je suis d'accord avec Alain pour dire que les trois candidats doivent être traités de la même façon et doivent faire la même chose. C'est normal, je pense. Et c'est une bonne chose que la règle soit appliquée pour tout le monde de la même façon. Mais je n'ai pas vraiment un problème là-dessus. Mais je ne peux pas que ALAC soit obligé d'aborder ce problème de façon différente. Voilà, c'était ma remarque. Merci. Merci, Tijani. Eh bien, maintenant, nous avons quelques minutes de plus, c'est tout. Nous sommes en retard. Nous avons déjà un retard de 8 minutes. Nous allons passer au point 9 de notre ordre du jour. Merci et pour votre travail, Rénalia, et pour toutes les personnes qui appartiennent au sous-comité de la ATRT2. Merci, Dave, et merci, Charles, aussi. Nous allons voir maintenant la révision des programmes de la réunion at large pour la 46e réunion d'ICANN à Pékin. Je vais rapidement voir cela, les horaires des réunions d'ALAC et d'Atlarge. Heidi, vous avez la parole. Merci, c'est Heidi. Je mis cela sur l'espace de travail pour que vous puissiez voir le programme. Il y a 23 réunions d'Atlarge avec la Prélo et ALAC. Et dimanche, il y a une introduction pour les ALS. Et il y a un atelier, une session de travail pour les leaders régionaux de ALAC. Et pendant cette session, il va y avoir un repas, un déjeuner de travail. Et il y aura aussi une session de 90 minutes l'après-midi pour donc aborder différents problèmes. Si vous regardez lundi, la réunion aura lieu. Ce sera une table ronde qui aura lieu avec le groupe de travail qui va travailler sur les défis futurs, la Pralo, et il y aura le soir, il y aura le showcase à Pralo. Le mardi, on va avoir la même structure, donc, et on va avoir la réunion d'ALAC, et outre avec le conseil, et il y a aussi, laissez-moi regarder, il y a donc une réunion de la Pralo l'après-midi, mardi après-midi, et mardi pendant l'après-midi, il y a une session de 2 heures de la discussion politique d'ALAC. Donc mercredi maintenant. Mercredi, on va avoir la réunion d'Apralo le matin, formation de compétences. On aura une session d'entraînement sur le wiki et le web. Tout le monde est bienvenu. Et il y aura le groupe de travail du RUIS. le matin et ensuite l'après-midi, la réunion traditionnelle d'Afralo et d'Atlarge avec Afralo et African. Et jeudi, il y aura deux réunions, la réunion de conclusion le matin et pendant le déjeuner, il y aura la réunion d'Afralo, la réunion mensuelle d'Afralo et l'après-midi, il y aura 3 heures de réunion. Merci Olivier. Merci beaucoup Heidi pour cette introduction des réunions que nous aurons à Pékin. Ça va être une semaine de beaucoup de travail, avec beaucoup de travail, et notre ordre du jour va bien sûr continuer à s'accroître à mesure que nous rapprochons de la date de la réunion de Pékin. Si vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire sur ce programme, faites-le à travers la liste d'Adlac et nous reprendrons cette discussion en ligne lors de la prochaine réunion. Voyons maintenant les événements de Apralo pour Pékin et la mise à jour. Bien. C'est Heidi de nouveau. Donc, on a demandé d'organiser une réunion. Il y aura plusieurs réunions. Nous avons 31 ALS qui seront présentes à Pékin, y compris certaines nouvelles organisations. Et il y aura, on va commencer dimanche, il y aura 1 heure pour l'introduction des ALS. Ensuite, ils pourront participer au dimanche à certaines sessions. Comme je l'ai dit, lundi après-midi, il y aura une réunion des multiparties prenantes de Apralo. Le soir, il y aura une réunion de le showcase de Apralo, lundi, avec une foire à laquelle participeront tous les ALS. Et chaque matin, les ALS des Apralo vont se réunir avec les fellows pour la session. Et ensuite, ils participeront aussi aux réunions d'ALAC. Et ensuite, le mardi matin, il y aura notre réunion des Apralo, notre réunion régulière d'Apralo. Et il y aura aussi des activités de sensibilisation qui auront lieu pendant les pauses café, pendant le pause-déjeuner. Je pense que c'est tout, non, Olivier? Merci. Et Heidi, nous avons donc beaucoup d'événements très, très intéressants. On attend un petit peu de voir comment et tout cela va se développer un peu plus. Nous atteignons la fin de notre appel et nous en sommes au divers, à la partie des divers. Est-ce qu'il y a des divers? Est-ce que quelqu'un a un point ici à ajouter? Merci. Vous ne devez pas me rappeler, Heidi, je me rappelle. Ici, on a une question à vous poser. Nous avons eu une série de nouvelles structures qui sont entrées dans ALAC dernièrement. Et c'est bien de voir que certains représentants ont survécu à notre réunion de téléconférence de 2 heures. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre tout ce qui se passe, ou en tout cas, vous essayez sûrement de comprendre tout ce qui se passe, c'est sûr. Mais nous, vous faisons une suggestion, c'est de faire peut-être, de participer à certaines conférences et d'essayer de vous adapter aux différents horaires des réunions. Donc, les volontaires qui veulent participer, partager un petit peu de notre savoir, des connaissances et du matériel sur ce qui se passe, ce qui se fait au sein de Atlarge et de ALAC et sur ce qui se fait sur ICANN, hein, pour faciliter un petit peu votre atterrissage dans notre organisation. Hein, n'hésitez pas donc à participer aux différentes réunions qui ont lieu dans les différentes régions. Bien, je voulais un petit peu prendre la température de la salle pour voir ce que vous en pensiez, s'il y a des suggestions, ce que vous pensiez de cette suggestion. Bien. Je ne vois pas d'objection. Donc, je suggère que les équipes d'ICANN fassent quelques appels dans les 3 semaines à venir. Et comme ça, nous pourrons résoudre cela et voir un petit peu qui peut participer, qui ne peut pas participer. Et nous ferons cela, nous ne le ferons pas en ligne, disons. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder dans les divers? Bien. Silence complet. Donc, bien. Heidi, vous m'entendez? Oui. Heidi, d'accord. Donc, merci. Je voudrais remercier tout le monde, remercier les interprètes. Et merci et pour les 15 minutes supplémentaires que vous avez faites. Merci à notre équipe, à nos équipes d'ICANN et à tous les participants de cet appel. Ça a été très positif. Et nous avons terminé. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir.